les gens reprennent.
Je vais laisser Béatrice introduire le diagnostic, ma collègue Béatrice, et puis après nous partirons, sortirons de la salle et nous irons nous rendre là-bas dans le potager. Voilà, vous allez potager.
Bonjour, je vais juste introduire rapidement ce diagnostic qui a été réalisé par le cabinet Argos. C'est donc en partenariat avec la région Rhône-Alpes qu'il a été décidé de faire un diagnostic de l'ensemble des jardins de la région. Avec, on espère, l'objectif de prévoir une future politique régionale autour de ces questions de jardins partagés. Donc ce diagnostic se déroule depuis le mois de mai. Vous avez dû, pour certains d'entre vous, répondre au questionnaire qui a été diffusé. Et du coup, on a là les premiers rendus qui se sont faits au cours des assises, des différentes assises nomades. Et l'idée étant qu'on puisse encore enrichir ce diagnostic et puis avoir des propositions pour faire remonter à la région avec un final qui sera au cours des assises régionales. Donc je passe la parole à Michel Basset du cabinet Argos, donc, qui a été retenu pour réaliser ce diagnostic.
Merci, bonjour. Alors c'est un peu une gageure de prendre la parole après le repas pour vous présenter des chiffres, parce que je vais pas mal vous présenter des chiffres, donc j'espère que ça ne va pas vous endormir. Donc je vais essayer de faire parler les chiffres. Alors pourquoi il y a des chiffres? Parce que ce diagnostic, il a été fait à partir de différents moyens, mais dont deux, une enquête par questionnaire qui a été adressée au jardin collectif hein, dans un premier temps, donc une cible assez large, 300 à peu près questionnaires diffusés, et puis une enquête auprès de jardiniers. L'objectif, c'était de repérer aussi les pratiques, hein, l'intérêt que pouvaient trouver les jardiniers dans cette participation dans les jardins. Et puis, autre technique qui a été utilisée, c'est d'aller voir, d'aller rencontrer un certain nombre de jardins pour s'approprier un petit peu ce que sont les jardins, parce que, vous l'avez dit depuis ce matin, alors, nous qui ne connaissions que de très loin les jardins, c'est vrai que la première chose qu'on a pu constater, c'est la diversité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas modéliser, je dirais, ce que sont les jardins, et en particulier les jardins partagés. Chaque initiative est extrêmement différente. Il y a un contexte, il y a un partenariat, il y a des acteurs qui se sont mobilisés. Voilà, donc il y a beaucoup de facteurs qui impriment la personnalité des jardins. Voilà, donc on est allé voir sur le terrain aussi, rencontrer un certain nombre de jardiniers, d'animateurs, pour s'imprégner un petit peu de ce que sont les jardins pour présenter ce diagnostic. Mais dans ce que je vais présenter là, il y a essentiellement des chiffres. Donc comme le disait Béatrice Char, le rapport sera remis et présenté pour les assises régionales, dans une perspective d'une politique éventuellement régionale sur la question. Alors, en essayant, comme tout le monde l'a dit depuis ce matin, d'être court, le plus court possible, deux questionnaires, comme je vous le disais. Donc nous avons eu 120 réponses, ce qui est au final un taux de retour pas si mauvais que ça, même si on peut toujours escompter mieux, hein, parce que avoir un diagnostic global à partir d'un échantillon qui, par nature, n'est pas représentatif, bon, vous allez me dire, ça présente certaines limites, mais quand on en arrive à ce niveau de réponse, c'est déjà pas mal, sachant que au final, dans les chiffres que je vais vous présenter, on a ciblé les chiffres autour des jardins partagés, donc ça représente 68 jardins, donc 62 structures différentes, ce qui fait que entre le potentiel de 109, je crois, jusqu'à 170, hein, vous voyez que ça fait quand même au final un taux de retour qui est assez important. 90 jardiniers ont répondu à l'enquête, et puis on a eu l'occasion d'en rencontrer sur le terrain. Alors on peut regretter sur les deux départements qui vous concernent que le département de la Loire n'ait pas été très, très répondant. Voilà. On peut éventuellement en reparler pour, comme le disait Béatrice Charles, on peut compléter les choses. C'est vrai que le traitement de l'enquête, maintenant, il est fait parce qu'on a fait plusieurs relances, etc. Enfin, on n'a pas simplement traité le premier jet. Hein. Bon, voilà. Alors que c'est vrai que sur le département du Rhône, le taux de retour est tout à fait positif, intéressant. Quelques données. Donc, au final, la diversité ne s'applique pas à tout. C'est vrai que vous voyez que la plupart hein, des jardins partagés sont portés par des associations qui représentent la large majorité, mais on a quelques cas un peu atypiques, vous le voyez ici, y compris, alors ça c'est pas atypique, hein, puisque les centres sociaux portent pas mal de jardins partagés aussi, et dans quelques cas, les collectivités. Donc, si on fait un focus sur les deux départements, vous voyez que sur le Rhône, sur l'ensemble du fichier détenu par Passe Jardin, donc on a 50 associations, ce qui est largement la plus grosse part, mais on a quand même 20 collectivités et centres sociaux qui portent des jardins, ce qui n'est pas du tout négligeable. La création de ces jardins, vous voyez qu'il y a une envolée depuis le début des années 2000. On passe de 7 à 60. Les années 2000 ont été marquées jusqu'à aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, on s'en marquait par une évolution très positive de la création de jardins. Vous voyez que dans le Rhône, lorsque nous nous avons pu faire le traitement, la grosse majorité, quasiment la totalité de ces jardins sont nés depuis les années 2000. Ce sont des jardins qui sont d'une taille globalement, ça c'est des données au niveau régional, hein, globalement de plutôt de petite taille, puisqu'on a 38% de ces jardins qui ont une superficie de moins de 500 mètres carrés, et puis 41% qui ont une superficie de 500 à 3000 mètres carrés, donc effectivement des tailles relativement modestes, bon, qui sont liées aussi à l'implantation qui, dans la plupart des cas, est urbaine. Donc comme ça a été signalé tout à l'heure, avec toutes les difficultés du foncier qui sont largement remontées, hein, des entretiens que nous avons pu avoir, qu'on peut mentionner. Par contre, si on regarde la situation du Rhône, hein, en particulier, on voit qu'on a un nombre de jardins de taille importante, hein, supérieur à 10 000 m2, non négligeable. Alors effectivement, bon, certains, on en a vu, on a entendu un petit peu ce matin, certains en zone périurbaine, voire au-delà, mais on a aussi des jardins qui sont... la zone urbaine aujourd'hui, c'est une zone qui a tendance à grandir, hein, bien au-delà des frontières des agglomérations, hein, voilà, donc, qui ont des contraintes foncières pratiquement identiques. Voilà, donc le département du Rhône se singularise par un nombre de jardins de taille importante non négligeable. La répartition du nombre de jardiniers, c'est à peu près, on peut faire la corrélation avec la superficie. Vous voyez que moins de 10 jardiniers, 31%, 10 à 30 jardiniers, 43%, et puis au-delà, c'est beaucoup moins important. Et justement, si on croise les deux informations, on voit quand même que certains jardins comptent un nombre de jardiniers importants sur des surfaces qui, somme toute, ne le sont pas. Hein. Donc, sans doute une dynamique forte sur certains jardins. Vous voyez que bon, pour les jardins de 500 à 3000 m2, rouge sur les graphiques, on a quand même un nombre non négligeable de jardins qui comptent entre 10 et 30 jardiniers. Donc, ce qui n'est pas négligeable. Sur le département du Rhône, bon, vous voyez que je ne fais pas de commentaires sur la loi parce que c'est un peu juste pour commenter une unité. Donc sur le département du Rhône, donc 53 jardins comptent entre 10 et 30 jardiniers. Et plus de 50 jardiniers, on en a quand même 17. Donc c'est des tailles importantes. Pour parler un petit peu d'autre chose, ce qu'on a essayé d'identifier, c'était aussi les pratiques, les intentions, les motivations qui faisaient qu'on créait un jardin, qu'on devenait jardinier, etc. Alors, ce qu'on constate sur ce graphique, c'est que, un peu d'ailleurs, le débat tout à l'heure le confirme, c'est que la dimension sociale, c'est la dimension de la rencontre, la dimension de la pédagogie, voilà, ce sont les dimensions qui motivent le plus au final. Donc c'est les objectifs essentiels de ces jardins, puisque si on regarde la dimension économique, on en a 5, hein, qui mettent en avant la dimension économique, donc de la production, par rapport à la dimension sociale. Vous voyez que c'est très différent. La dimension écologique est aussi présente, mais de manière moindre, parmi les objectifs qui ont présidé à la création de ces jardins. Si on regarde alors à partir de là la motivation des jardiniers, là aussi, hein, ce qui l'emporte, c'est le sociétal, le lien social, etc. Puisque bon, la majorité disent qu'ils sont motivés par plaisir, hein, d'aller dans le jardin, de devenir jardinier, pour rencontrer d'autres personnes. Et au final, vous voyez que c'est beaucoup plus que pour la production de produits de qualité, hein, 28, encore plus que pour faire des économies, et la préservation de la planète, et pas forcément. Alors, donc, vous voyez que ce qui l'emporte essentiellement en termes de motivation, je pense que vous en serez d'accord, c'est la dimension lien social, partage, rencontre, plaisir.
Excusez-moi.
Oui.
J'ai juste une question qui est faite par rapport à ce qu'on a dit ce matin. Là, on parle des usagers.
Là, oui. Là, les jardiniers, là.
Oui, les jardiniers, vous les classez comment ? Comme ceux qui ont mis en place le jardin ou comme ceux qui sont usagers du jardin ?
Usagers du jardin. Voilà. À un instant T, ça peut évoluer. Hein, on pourrait y avoir un baromètre régulier de la motivation des jardiniers. Je ne sais pas pourquoi pas. Voilà, alors là, c'est de nouveau tiré de l'enquête auprès des structures. Quelles sont les pratiques qu'on pourrait qualifier d'éco-citoyennes dans ces jardins ? Donc, vous voyez que, bon, grosso modo, les pratiques qui avaient été proposées, hein, mixité de genre, mixité générationnelle, sociale, échange de savoir entre jardiniers, fonctionnement collectif recherché, jardin qui soit adapté aux personnes handicapées, accès possible au jardin depuis la rue. Au final, vous voyez que la grande majorité des jardins ont des pratiques qu'on va qualifier d'éco-citoyennes. En dehors, de manière peut-être, là il y a peut-être des marges de progrès pour l'accès aux personnes handicapées. Hein, vous voyez que bon, il y a 40%, un peu plus, hein, des jardins qui ne le permettent pas. Et puis l'accès possible depuis la rue. Donc, effectivement, là aussi, il faudrait aller voir de manière un peu plus précise, hein, sur ce dernier critère, quels sont les jardins concernés. Il y a peut-être des jardins, effectivement, qui, de par leur configuration, n'ont pas pour objectif forcément d'être accessibles depuis la rue. Mais voilà. Donc, sinon, pour les autres critères, des pratiques qui, manifestement, sont plutôt éco-citoyennes. En matière d'aménagement, toujours éco-responsable. Donc, là aussi, on retrouve en rouge les cas où, pour les différentes propositions, on ne trouve pas ces propositions dans les jardins. Et puis en bleu, ce que l'on retrouve. Alors vous voyez ce que l'on retrouve quasiment dans tous les jardins. Donc là aussi, ça renvoie à une discussion de ce matin. L'aire de compostage est pratiquement présente dans tous les jardins, comme la présence d'outils partagés entre les jardiniers. Ce que l'on retrouve moins, c'est les récupérateurs d'eau, les clôtures en matériaux naturels et les cabanes en matériaux écologiques. Et ce que l'on retrouve beaucoup moins, ou presque pas, ce sont les mares, les toilettes sèches, un petit peu plus, et les haies diversifiées avec des espèces locales. Voilà, donc vous voyez qu'il y a des questions qui sont prises en compte de manière massive, et d'autres sur lesquels il y a peut-être, pour certains jardins, là aussi des marges de progrès en matière de pratiques éco-responsables. Autre question, c'est la question des pratiques éco-responsables dans les jardins, en matière de culture. Alors vous voyez, là aussi, toujours pareil, le bleu, ce qui ressort de manière positive, on va dire, et le rouge, ce qui ressort de manière négative. Donc, de manière positive, la prise en compte de la question du sol vivant et de l'organisation des déchets, c'est on met ça en corrélation avec la présence fréquente de compostage. Et puis, là où il y a des marges de progrès possibles, c'est la production favorisant les pollinisateurs, qui se retrouve seulement dans 30% des cas, et la production de graines et de plantes, qui là aussi se retrouve dans à peu près un tiers des cas. Voilà. Qui sont les propriétaires fonciers de ces jardins ? Deux tiers des cas, pratiquement, sont des collectivités. Et puis, 16% des bailleurs. Donc, vous voyez qu'on a, plus des trois quarts du foncier qui est propriété des collectivités territoriales et des bailleurs. On a quelques cas de particuliers et puis on a des cas très, très, très différents. Alors ici, en particulier sur les deux départements, on a une paroisse qui est propriétaire du foncier d'un jardin partagé. En matière de partenariat financier, là aussi, vous voyez que les tranches, les quartiers sont nombreux, donc ça veut dire que ça soulève une des problématiques, hein, des jardins, c'est la question du financement, bien entendu. Donc vous voyez que les collectivités sont un partenaire incontournable et central. Tous les dégradés de bleu du graphique correspondent à des collectivités. Alors avec une présence bien entendu forte de la commune, 27% des partenaires financiers des jardins sont des communes, et des intercommunalités dans une mesure moindre, 8%, et du département pour 18%. Là aussi, ça dépend des objectifs, hein, des jardins. Les départements intervenant, pas forcément d'ailleurs sur certains départements vis-à-vis du jardin lui-même, mais parce qu'ils peuvent avoir un rôle d'insertion en particulier, un rôle social. Donc c'est à ce titre-là qu'ils interviennent, pas forcément au titre des jardins, puisque au niveau régional, il n'y a pas non plus énormément de collectivités qui ont une politique d'intervention vis-à-vis des jardins. Par contre, les jardins peuvent bénéficier, au regard de leur spécificité, d'interventions financières spécifiques. Alors c'est le cas par exemple des départements, dans le cadre de sa compétence en matière sociale. Vous voyez à côté qu'on a d'autres... La deuxième grande source de financement, c'est bien entendu les cotisations des adhérents et quelques dons de particuliers, ça représente 18%. Et puis des cas là aussi spécifiques, avec la présence d'entreprises, la présence d'autres associations qui soutiennent l'association porteuse du jardin. Les partenaires financiers dans les deux départements qui vous concernent, donc vous voyez que dans le département du Rhône, les communes sont très présentes, les intercommunalités aussi, le département, la région. Voilà, donc on a notamment vis-à-vis des communes un fort partenariat sur le département. Si on regarde au plan financier, au plan des investissements et au plan du fonctionnement, donc au plan des investissements, vous voyez là aussi que les investissements somme toute sont modestes, puisque la moitié des investissements à jardin sont de moins de 10 000 euros. Donc ce qui est effectivement relativement modeste, mais on a quand même certains jardins, et on a rencontré des jardins à ce niveau-là qui sont assez représentatifs de ça, qui ont fait de gros investissements, 100 000 voire plus, donc là on est sur d'autres échelles. Voilà, donc 12% sont des jardins dont le budget d'investissement a dépassé 100 000 euros. Donc les budgets d'investissement, si on compare avec dans les différents départements, vous voyez que bon, sur le département du Rhône, par exemple, on a 10 cas pour lesquels le budget d'investissement est de moins de 10 000 euros, et puis on a 2 cas pour lesquels l'investissement est de plus de 100 000 euros. Pour ce qui relève du département de la Loire, là aussi, comme on a 2 cas traités, c'est un peu difficile d'en tirer des enseignements. Budget de fonctionnement. Alors, budget de fonctionnement qui est variable. La variable essentielle, c'est salariés, nombre de salariés, salariés ou pas. Moins de 5 000 euros de budget de fonctionnement dans plus de la moitié des cas. Donc, c'est des cas où, effectivement, là, il n'y a pas de salariés. Et puis jusqu'à plus de 50 000 euros, là aussi à l'autre extrême, pour 11%. Et on a à peu près un tiers qui se situe entre ces 5 000 et ces 50 000 de budget de fonctionnement par jardin partagé. Le salariat, c'est lié aussi aux charges financières en matière de fonctionnement, bien entendu. Donc, on a 35% donc des jardins qui ne comptent pas de salariés. On a 42% des jardins qui comptent un salarié. Et puis un petit quart qui compte plus de 2 salariés, donc 3 voire 5 et plus. Là aussi, c'est très dépendant, bien entendu, du projet du jardin, de sa vocation, de son activité, et notamment au-delà de du rôle social, sociétal plutôt. Les cas de figure, oui. C'est des personnes. Sur le nombre d'heures, bonne question, je ne me rappelle plus, peut-être bien que si, il faudrait que je regarde. Je regarderai tout de suite après, je répondrai. Voilà, et pour rester à peu près dans le timing, à partir de quelques informations tirées, quelques informations synthétiques tirées de ces deux enquêtes, alors, quels sont les enjeux qui sont ressortis le plus, à la fois dans les enquêtes et puis dans les contacts qu'on a pu avoir sur le terrain, comme je le disais tout à l'heure. Donc, on les a regroupés autour de quatre enjeux. Bon, il y a un enjeu selon les territoires lié à la nouveauté du phénomène jardin, on va dire, jardin partagé en particulier, donc qui nécessite bien entendu des actions de diffusion de la connaissance de ce que c'est les jardins, de mobilisation des acteurs, d'organisation des acteurs. Voilà, donc là aussi, selon que l'on est à un endroit ou à un autre dans la région, bien entendu, si on est dans le Rhône, effectivement, le jardin, vu le nombre de jardins, cet enjeu-là est sans doute un peu moins présent, encore que sur certains territoires, les questions liées à la nouveauté du phénomène, on a vu que ça s'est quand même développé grosso modo dans les 10 dernières années, dans les 15 dernières années. Voilà, donc un enjeu autour de la question de la nouveauté. Un enjeu, bien entendu, alors que là aussi qu'on rencontre plus ou moins, mais qui est pratiquement partagé par tous, c'est le cas de le dire, l'enjeu foncier, la question de l'accès, bien entendu, mais aussi du maintien et du développement du foncier. On l'a vu avec la question de, certaines fois, du transfert de jardins, la question des jardins éphémères, par exemple. Voilà. Donc la question du foncier est un enjeu qui est là, pour le coup, partagé presque par tous les jardins. Un autre enjeu lié d'ailleurs à l'enjeu foncier et aussi à celui de la nouveauté dans certains cas, c'est les enjeux financiers. Donc la nécessité notamment pour les investissements, de trouver des financeurs, de diversifier ces financeurs pour ne pas être lié seulement à un financeur. Alors c'est en particulier le cas en matière de politique de la ville, parce que quelqu'un a parlé tout à l'heure du financement dans le cadre du CUX, contrat urbain de cohésion sociale. Bon, on sait ce qu'il en est de ces financements qui ne sont pas toujours très sécurisés. Voilà, donc ils sont liés à des politiques, à des objectifs politiques à un moment. Et donc, effectivement, l'enjeu de la diversification des financements, c'est aussi lié au caractère variable des objectifs politiques au niveau national, mais aussi au niveau local. Et la pérennisation de ces financements, en particulier en matière de fonctionnement, et notamment des postes de travail qui se retrouvent dans un certain nombre de cas. Et enfin, l'enjeu réseau, c'est vrai que vous êtes nombreux là aujourd'hui. Ce qu'on a pu constater, c'est aussi que dans certains lieux de la région, la dynamique était sans doute moins forte. Donc, et ça pose des problèmes par rapport à la reconnaissance, bien entendu, de ce que sont les jardins, à la reconnaissance de leur spécificité, de leur rôle. Voilà, donc l'enjeu du réseau est certainement important pour contribuer à la reconnaissance au renforcement de la reconnaissance des jardins. Et un enjeu qui a été souvent formulé sous la forme de, notamment avec Passe Jardin, voilà, on travaille bien, ça se passe bien, enfin, ils nous aident beaucoup, etc. Et au final, on en demande encore un peu plus. Voilà, alors donc c'est ce que j'appelle le développement de l'offre de services du réseau. C'est vrai que notamment dans la phase après création, parce qu'on a aussi besoin, bien entendu, de soutien post-création. Voilà, mais ça renvoie aussi aux moyens, aux enjeux financiers, etc., etc., bien entendu. Voilà, en termes de conclusion, quelques éléments de ce diagnostic et quelques enjeux à relever sur lesquels il y a sans doute des actions à conduire pour permettre le développement des jardins partagés et pourquoi pas l'émergence d'une politique régionale en la matière.
Oui, voilà. On n'a pas le temps de débattre, mais bon, on peut rebondir dans les ateliers. Donc maintenant, je vous invite à sortir de la salle, aller dans le potage d'idées, et Joël va vous présenter ce que vous allez faire cet après-midi.
Ça fera des éléments dans le potage. Alors on va donc vous inviter maintenant à venir touiller la soupe, si je peux me permettre. Vous nous avez donc donné tous les ingrédients qu'il fallait. On a essayé de les regrouper par six groupes différents pour faire six recettes de soupe différentes. Donc on va vous inviter à vous répartir sur ces six groupes qui sont dans la grande salle là-bas, qui vont être présentés par chacun des animateurs de chaque groupe. C'est le chef cuisinier de chaque soupe qui va venir présenter sa thématique. Et on vous invite donc à venir touiller un peu ces ingrédients dans le but d'en ressortir les idées principales qui caractérisent les jardins du Rhône et de la Loire en vue de porter ces idées-là dans les assises régionales. Pour ce faire, on va vous proposer une petite particularité, c'est d'intégrer, on va faire en trois séquences différentes. Donc vous répartissez une première fois sur les six groupes et on aura trois temps distincts pour pouvoir changer de groupe. Donc vous pourrez assister à trois groupes différents et participer au débat des six thématiques différentes qui ont été réparties. Donc dans un premier temps, je vais proposer à chacun de présenter sa thématique. On va commencer par là. Et une fois que chacun aura présenté ses thématiques, vous ferez votre choix et vous partirez chacun avec l'animateur qui correspond à la thématique que vous voulez débattre pour la première séquence. Donc je rappelle, il y a six groupes et on fait trois séquences, donc vous pourrez participer à trois discussions différentes au cours de l'après-midi.
Bonjour à tous. La thématique abordée dans l'atelier que je vais animer, ce sera la mobilisation et l'implication des habitants. On va parler du fonctionnement collectif, du bénévolat et du partenariat. Voilà. Et sinon, je suis Marie-Hélène Dumont, l'animatrice de Côté Jardin.
Alors Vanessa, donc je me suis déjà présentée ce matin, je vais me représenter, donc je suis animatrice à la MJC PRH et moi j'animerai donc un atelier cuisine sur tout ce qui concerne en fait les enjeux liés au lien social, donc l'aspect partage, les aspects autour des dimensions intergénérationnelles, enfin tout ce que peut apporter le jardin au niveau social. Voilà, on a parlé ce matin dans les petites phrases du jardin là, d'anéantir l'égoïsme. Ben là, on sera dans ces questions-là. Voilà.
Donc, Joël Imbert, je n'avais pas le fait encore. Joël Imbert, jardinier du jardin suspendu sur les toits de Perrache, donc le jumeau du jardin de la MJC, et aussi permanent de la maison d'écologie. Et donc, moi, j'animerai un atelier sur la mixité sociale dans les jardins.
Marc Bourgeois, donc animateur à la Légumerie, à la Croix-Rousse. L'atelier que j'animerai touchera les questions de la biodiversité, de la pollution, des savoir-faire techniques dans le jardin, de l'alimentation et la biodiversité. Donc voilà, un certain nombre de questions techniques autour des jardins partagés.
Donc moi je suis Béatrice Char, je suis co-directrice à l'association Passe Jardin. Et donc mon atelier c'est autour de la question du foncier et du paysage, de l'aménagement du territoire, peut-on inscrire les jardins dans les plans locaux d'urbanisme, comment sécuriser le foncier, etc.
Donc moi aussi je me représente, Mathieu Benagonin, je suis jardinier et animateur, j'ai un statut de paysagiste. Voilà. Alors, c'était pour rigoler ça. Mais c'est vrai. Moi, j'anime l'atelier sur freins et leviers au développement d'un projet de jardin partagé. Donc, il y a plusieurs aspects, c'est une entrée un peu plus globale, mais il y a de quoi dire là-dessus.
Alors, on redit peut-être l'intitulé de chaque atelier pour que vous repérez bien, et après, on fera partir chacun avec le groupe que vous souhaitez suivre.
Alors, ce sera mobilisation des habitants, lien social,
mixité sociale.
Mais question technique autour du jardinage, éco-responsabilité, pollution des sols.
Donc le foncier et le paysage.
Les freins et leviers autour d'un développement de projet de jardin partagé.
Et moi, jamais ni me rien, mais je vais avoir le poète-poète pour toutes les 30 minutes pour arrêter les ateliers et redémarrer les ateliers. Donc je serai le. Voilà, changer de recette.
J'ai une question sur la méthode. Excusez, mais j'ai peur que par rapport aux enjeux, le fait de diviser, il y a des choses qui sont très interdépendantes. Déjà, la mixité sociale, l'insertion. Vous avez, à partir de nos ingrédients, vous avez passé le tamis. Et c'est à un point mixé où il y a des grumeaux qui ne passent pas là. Et voilà, pour moi, je suis désolé de hausser la voix, mais est-ce qu'on peut re-questionner, sans perdre trop de temps par rapport à votre famille, mais peut-être la manière dont vous avez fait le tamis, et savoir s'il ne peut pas y avoir, d'une manière un peu plus démocratique, une autre manière de diviser pour...
On va y répondre, en fait, pour dire un petit mot sur la démarche. L'idée étant que si on met tous les ingrédients dans la même soupe, on arrive à un truc qui n'est pas très digeste et où il y a beaucoup de grumeaux, justement. Donc on a essayé justement de ne pas définir les thématiques au préalable, mais de laisser les thématiques émerger sur la table en fonction de la position où les gens mettent leurs post-it. Et on vous propose dans chaque atelier de commencer par rediscuter, de relire tous les post-it et rediscuter éventuellement du tri qui a été fait. Il faudra pouvoir faire un tri interne, voire expulser certains ingrédients vers un atelier voisin s'il y a besoin. Voilà. Après, il faut trouver un mode d'organisation pour que ça ne soit pas un pugilat général et un truc qu'on finisse tous dans la marmite à cuire tranquillement. Donc, effectivement, c'est restrictif, comme tout débat quand on est nombreux.
Mais par exemple, il y a eu sur la base du rapport qui a été fait de l'Argos, il y a déjà des éléments sur lesquels on pourrait rebondir aussi. Et là, le foncier... qui représente comme petit groupe.
Il questionne beaucoup d'autres thématiques, je suis bien d'accord. Mais peut-être qu'on pourra rebondir à la fin, lors du retour des ateliers, on pourra rebondir sur les choses qui étaient transversaux ou en dehors des ateliers existants. Après, vous pouvez faire évoluer la discussion à l'intérieur de l'atelier. Et puis, voilà, comme je disais tout à l'heure, on peut sortir des ingrédients de la recette en question, les mettre au compost ou les remettre sur la table pour la prochaine soupe. Enfin, voilà. Donc je vous propose le premier groupe, donc avec Marie-Hélène. Le premier groupe, c'est une quinzaine de participants par groupe, effectivement, pour qu'on soit à peu près équilibré. Les autres restaient en place pour l'instant. Hein. Alors, vous pouvez vous placer derrière votre. Donc le groupe qui est parti avec Marie-Hélène, c'était la concertation et la mobilisation autour d'un projet
de création.
Ensuite, le groupe autour de Vanessa.
Qui va plutôt être sur les questions du lien social et des valeurs qu'on souhaite défendre.
Lien social, valeur et convivialité. Derrière Vanessa. Derrière Marc.
Les questions techniques autour de la vie du jardin, la pollution, la production de graines, la biodiversité.
Derrière moi, mais du coup effectivement ici, tout ce qui est question de mixité sociale, la différence des publics dans les jardins. Comment intégrer un maximum de personnes de profils différents.
La question du foncier.
La question du foncier avec Béatrice.
La question des freins et leviers au développement d'un projet de jardin. Avec moi.
Ouf.